finalement, c'est un rite de passage, parce qu'on paraît devant ses pères.
L'efficacité proprement magique du rituel, la leçon inaugurale.
Il y a là une tradition qui remonte au XVIe siècle.
Moi, je me souviens de la leçon inaugurale de Raymond Aron. Il était vert de peur.
Une mode insensée s'est emparée du bergsonisme et on faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les leçons inaugurales du Collège de France, coordination, Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler. Je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Lévi-Strauss, le jour de sa leçon inaugurale, debout dans le fond, contre la porte de droite, il y avait Alain Cuny, vous voyez, l'acteur Alain Cuny. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire, il n'y a pas que nous.
Vous voici, comme chaque jour de cet été et pour une nouvelle semaine, conviés dans le grand amphithéâtre du Collège de France, auquel s'associe France Culture, pour une nouvelle leçon inaugurale. Cet état des lieux d'une recherche en cours est aussi le reflet des mutations de notre monde. Aujourd'hui, nous gagnons les steppes et les montagnes de l'ancienne Tartarie, où les récits fabuleux et inquiétants côtoient les rêves d'aventure, les conflits et les grandes découvertes aux côtés de l'archéologue Franz Grenet pour sa leçon inaugurale intitulée « Recentrer l'Asie centrale ». Recentrer pour ce normalien polyglotte, titulaire de la chaire « Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique » à partir de 2013, c'est situer le retour de cet espace culturel dans les études humanistes du Collège de France, de la chaire d'études chinoises au XIXe siècle à la chaire « Histoire et civilisation de l'Asie centrale » occupée par Muang Huis au XXe. Franz Grenet marque l'évolution de ce concept géographique créé par un Russe et un Français en 1825. Recentrer, pour lui, c'est surtout resserrer les limites de l'Asie centrale sur lesquelles les archéologues se sont accordés depuis quelques décennies, en englobant sous ce terme les cinq républiques ex-soviétiques du Turkménistan, l'Ouzbékistan, Tadjikistan, Kazakhstan et Kirghizistan, et aussi l'Afghanistan, la région chinoise du Xinjiang et l'Iran sassanide. Au micro de Christine Goémé en 2014, Franz Grenet confiait avoir trouvé sa vocation dans la petite ville archéologique de Lillebonne en Normandie et auprès de son oncle qui lui a fait lire « L'Empire des steppes, Attila, Gengis Khan » de René Grousset. Sa leçon inaugurale met à l'honneur la coopération entre Français et Russes débutée après la découverte de la ville d'Ayranoum en 1964 en Afghanistan. Paul Bernard, qui dirigeait alors ses fouilles, pousse Franz Grenet à apprendre le russe. Mais le site d'Ayranoum est bientôt interdit par les événements en Afghanistan et anéanti par les pillages. Dans son métier et sur cet espace en perpétuel mouvement, il faut gérer l'imprévu. À partir de 1989, Franz Grenet dirige sur le site de l'ancienne Samarcande la mission archéologique franco-ouzbek de Sogdian, qui redécouvre cette civilisation de l'Antiquité et du Haut Moyen-Âge. Au-delà du stéréotype de la route de la soie, quand on parle d'Asie centrale, Franz Grenet loue les creuseurs de canaux et l'art des jardiniers qui ont su acclimater les pêches d'or de Samarcande. En 2002, c'est la surprenante réouverture de l'Afghanistan à la recherche archéologique et l'étonnante découverte d'un relief sassanide sculpté sur une falaise au nord de Kaboul que Grenet s'empresse d'aller étudier. Gérer l'imprévisible. Et nous rejoignons le grand amphithéâtre du Collège de France pour la leçon inaugurale de Franz Grenet le 7 novembre 2013.
En créant une chaire Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, d'abord à l'initiative de Gérard Foussman et de Jean Kellens, à qui je tiens à exprimer ma gratitude, le Collège de France n'a pas totalement innové. Une chaire portant un intitulé assez proche, mais sans la spécification pré-islamique, avait déjà existé de 1965 à 1977. Le titulaire en était Louis Ambis. L'objet scientifique qui s'offrait alors sous le nom d'Asie centrale différait beaucoup de ce qu'il est devenu depuis. On restait alors dans le droit fil des études que Paul Pelliot avait consacrées à cette zone comme une partie de l'enseignement de sa chaire intitulée « Archéologie de l'Asie centrale », mais d'une Asie centrale vue presque uniquement sous l'angle de ce qu'elle avait donné à la Chine et de ce qu'elle en avait reçu. L'archéologie dont on pouvait alors se nourrir était presque uniquement une archéologie du bouddhisme, celui de l'Afghanistan où œuvrait la DAFA, la délégation archéologique française en Afghanistan, et celui du Turkestan chinois, qui avait parcouru les grandes expéditions européennes du début du siècle, dont une mission française conduite par Pelliot lui-même. Les résultats des fouilles soviétiques étaient demeurés presque inconnus à Pelliot. Ambis en avait reconnu l'importance, mais il n'avait pas de contact avec le terrain. Quant aux sources écrites que l'on mobilisait, il s'agissait presque uniquement des sources chinoises, chroniques et récits de pèlerins bouddhistes, les seuls dont on pensait alors qu'elles pouvaient fournir des repères chronologiques fiables. On prêtait aussi une grande attention aux récits des voyageurs européens du XIIIe siècle, dans une perspective où l'Empire mongol était perçu comme le grand décloisonnement de l'Eurasie et où l'entreprise emblématique était l'édition et le commentaire de Marco Polo, tâche à laquelle Pelliot puis Ambis consacrèrent beaucoup d'énergie. À vrai dire, la chaire de sinologie du Collège de France n'avait jamais cessé de prêter une attention toute particulière, on peut même dire unique, à ces voisins terrestres que les Chinois avaient appelés les barbares d'Occident, avant, à partir de 1840, d'en subir d'autres, plus redoutables, venus par la mer sur des canonnières. Dès 1820, Jean-Pierre Abel Rémusat, premier titulaire de la chaire de langue et littérature chinoise et tartare mandchoue, faisait paraître son histoire de la ville de Khotan, tirée des documents chinois. Un peu plus tard, Stanislas Julien procurait la première traduction du récit de voyage du pèlerin Xuanzang, l'une des sources principales sur l'Asie centrale et l'Inde du Nord au VIIe siècle. Dans le même temps, en Russie, Nikita Bichourine, en religion frère Hyacinthe, ancien missionnaire orthodoxe à Pékin, publiait le recueil des notices sur l'Asie centrale contenues dans les chroniques chinoises, recueil qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a plus quitté la table de nos collègues russophones. Stanislas Julien et frère Hyacinthe étaient en correspondance, préfigurant les liens d'amitié entre savants russes et français qui allaient plus tard tant aider au progrès des études centra-asiatiques. Je suis un jour tombé par hasard sur un échange où il déplorait de concert que Marco Polo ne soit alors accessible que par un instrument insuffisant, l'édition de Potier, un savant dont plus tard Pelliot, terrible comme il savait parfois l'être, écrivit qu'il avait passé sa vie à essayer d'apprendre le chinois sans jamais y parvenir tout à fait. Au tournant du XXe siècle, c'est aussi à Saint-Pétersbourg qu'Édouard Chavannes fit paraître ses admirables documents sur l'histoire des Turcs occidentaux, un outil de travail qui n'a pas vieilli. Puis vint Pelliot, son disciple, le premier spécialiste français de l'Asie centrale à avoir travaillé sur le terrain à l'occasion de sa mission dans le Turkestan chinois. Sa contribution majeure fut cependant la moisson de textes qu'il rapporta de Dunhuang. Seul, parmi tous ceux qui se servirent dans le Capharnaüm à manuscrits du moine Wang, il pouvait se faire une idée du contenu des manuscrits écrits en d'autres langues que le chinois et le sanskrit. Grâce à la pertinence des choix de Pelliot, le jeune Émile Benveniste, qui devait enseigner au collège la grammaire comparée, put faire sur les riches matériaux sogdiens ramenés à Paris ses débuts de philologue des langues iraniennes, introduisant alors dans les études centra-asiatiques une culture qui, bien plus tard, allait se trouver sous les feux de la rampe. Un avenir qu'annonçait aussi Pelliot lui-même, avec un article précurseur paru en 1916, « La colonie sogdienne du lobe nord ». Le thème des colonies sogdiennes n'allait être repris que dans l'après-guerre par Edwin Pelé-Blanc. Il est aujourd'hui installé au cœur de la recherche sur les routes transasiatiques. Ce rappel de ce que les études sur l'Asie centrale doivent à la chaire de sinologie du collège était nécessaire au moment où nous nous apprêtons à en fêter le bicentenaire. En même temps, et autant que le rappel qu'eussent aussi mérité les contributions de la chaire d'indologie, il nous instruit sur l'approche que reçut longtemps cette ère culturelle. Une approche par l'extérieur. Approche dont relevaient aussi les premières recherches de géographie historique, celles de Thomas Scheck et de von Schwartz, fondées surtout sur les historiens gréco-latins d'Alexandre. Celles de Markfart et de Barthold, fondées surtout sur les géographies arabes, persanes et arméniennes. Les expressions propres aux peuples de l'Asie centrale, qu'elles fussent littéraires ou artistiques, ont mis beaucoup de temps à se dégager de la gangue des influences. L'Asie centrale est une aire culturelle tardivement reconnue, car son émergence même en tant que réalité géographique a été très lente. Encore aujourd'hui, quand on parle de Samarcande à un interlocuteur même éclairé, l'inévitable commentaire « Samarcande, un nom qui fait rêver » provoque immédiatement des questions sur son inscription dans des cadres géographiques, politiques et linguistiques reconnaissables. Le terme « Asie centrale » fut créé vers 1825, simultanément du côté russe par l'agent politique Georges Meyendorff et du côté français par Julius Klaproth, un sinologue un peu sulfureux, lancé par Jean Potocki, l'auteur du manuscrit trouvé à Saragosse, et qui n'hésitait pas à fabriquer de faux récits de voyage sans avoir pour cela le talent littéraire de son mentor. Le terme ne tarda pas à s'imposer, à côté de sa variante Asie moyenne, parfois préférée en Russie. Quand on lit cette littérature géographique du XIXe siècle, on s'aperçoit vite que derrière les rationalisations sur les climats ou sur les frontières dites naturelles, se joue un profond malentendu, opposant la vision européenne et la vision russe. Du point de vue européen, l'Asie centrale, c'est alors ce qui n'est ni la Russie, ni la Chine, ni la Perse, ni ce qui est en train de devenir l'Inde britannique. Donc une sorte d'entre-deux voué à recevoir des états tampons, dont finalement le seul sera l'Afghanistan. Du point de vue russe, au contraire, et cela depuis Pierre le Grand, c'est un espace terrestre contigu, prolongement naturel de la steppe russo-sibérienne, et que l'Empire des Tsars se donne pour mission de contrôler, puis d'annexer, enfin de coloniser, un projet qui, sous ses avatars divers, s'est nourri de nécessités stratégiques, d'un sentiment de supériorité culturelle ou d'un grand dessein idéologique, quand ce ne fut pas, dans les milieux panslavistes, le rêve de reconquérir le berceau des peuples aryens, un thème qui ressurgit aujourd'hui chez certains savants du Tadjikistan indépendant. Le fait avéré que cet espace n'a pas de limites scientifiquement démontrables a couvert commodément diverses tentatives russes puis soviétiques pour le déborder, que ce soit au Turkestan chinois à plusieurs reprises, au Khorasan iranien pendant la dernière guerre ou en Afghanistan plus récemment. Parmi les savants aussi, la notion est longtemps restée à géométrie variable. Louis Ambis, qui travaillait beaucoup sur la Sibérie et sur la Mongolie, lui donnait une acception très large. Dans mon enseignement, j'entends pour ma part recentrer l'Asie centrale dans les limites plus resserrées sur lesquelles les archéologues se sont accordés depuis quelques décennies, en englobant sous ce terme les cinq républiques ex-soviétiques du Turkménistan, de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan, du Kazakhstan et du Kirghizistan, et aussi l'Afghanistan, avec en plus un intérêt pour la région autonome chinoise du Xinjiang, surtout dans les périodes où étaient vives ses affinités culturelles avec les pays à l'ouest des Pamirs. Cependant, je ne refuserai pas non plus de m'intéresser à l'Iran, et en particulier à l'Iran sassanide. Puissant voisin, par moments conquérant partiel, dans certains domaines, modèle de référence, un point sur lequel je vais être amené à revenir dans un instant. Pas davantage, je ne considérerais comme toujours infranchissable la césure entre le pré-islamique et l'islam classique. Au préalable, il convient de se demander comment cet espace était défini en Occident avant cette invention un peu par défaut du terme Asie centrale. Ce qu'il est venu remplacer sur nos cartes, c'est en fait la notion de Tartarie ou de Grande Tartarie, suivant la conception historiquement exacte d'après laquelle la structuration politique précoloniale de toute la zone remontait au partage de l'Empire mongol entre les fils et petits-fils de Gengis Khan. Ce passé terminologique n'est pas innocent pour la façon dont ces peuples ont été perçus sur la longue durée. La Tartarie, c'est le pays des Tartares, dont Saint-Louis nous disait qu'ils étaient sortis du Tartare et devaient y être renvoyés. À considérer bien d'autres épisodes historiques, dont le dernier en date fut le 11 septembre 2001, on se prend à croire que les peuples d'Asie centrale sont un peu comme les anarchistes de Léo Ferré. On ne les voit jamais que quand on a peur d'eux. Déjà en 842, le calife Al-Wathiq s'inquiéta de ce que les nomades s'apprêtaient à sortir de la muraille de Gog et Magog mentionnée dans le Coran, et il envoya là-bas une mission d'exploration. Celle-ci ramena la description d'un des longs murs réellement dressés par les sédentaires face à la steppe. À vrai dire, on ne sait pas trop lequel, la Grande Muraille de Chine n'étant qu'un candidat possible parmi d'autres. Plutôt encore, au Ve siècle, s'était formé dans l'Afghanistan actuel et au nord de celui-ci l'empire des Huns Heftalites, dont l'aristocratie était peut-être apparentée au clan d'Attila. En 484, le souverain sassanide Péroz partit les affronter et périt au combat avec la fleur de sa chevalerie. Quand on lit ce qu'écrivait sur eux un chroniqueur arménien contemporain de ces guerres, on a l'impression d'être devant les descriptions du fléau de Dieu ou de la terreur mongole. Je cite « Même en temps de paix, la seule vue ou la seule mention d'un Heftalite terrifiait tout un chacun. » On peut le comprendre. Quand Péroz entra dans leur pays, ses troupes s'avançaient davantage comme des condamnés à mort que comme des guerriers marchant en campagne. Fin de citation. En fouillant le site de l'ancienne Merv, aujourd'hui au Turkménistan, qui fut le point de départ de la campagne de Péroz, les archéologues soviétiques ont retrouvé l'endroit où les contingents amenés des montagnes sud-caspiennes, qui étaient aux armées de l'Iran ce que la Suisse était à celle de la Renaissance, avaient dépensé leurs soldes à la veille du combat fatal. Des pièces de cuivre, émises par un atelier de leur pays, avaient été laissées dans un bâtiment à petites cellules, où nos collègues voulurent d'abord reconnaître un monastère chrétien, avant de l'identifier comme un établissement moins recommandable à la morale. Ce microscopique exemple aura au moins le mérite de montrer que la tâche de l'archéologue d'aujourd'hui est tout autant de donner substance aux récits transmis par les auteurs anciens que de les démythifier quand il le faut. Cette archéologie de l'Asie centrale est par rapport à d'autres très jeune. Si l'on met à part les grandes explorations du Turkestan chinois, qui, sauf les travaux de Mark Orelstein, étaient surtout des collectes conduites sans méthode de fouille digne de ce nom, elles remontent principalement à deux écoles qui se sont formées dans l'avant-guerre, ne se sont pleinement rencontrées que dans les années 1980 et maintenant ont dans une large mesure fusionné sur le terrain. Ces écoles sont d'un côté l'école française d'archéologie afghane, de l'autre l'école soviétique des républiques d'Asie centrale.
Écoutez France Culture, la leçon inaugurale de Franz Grenet, recentrée l'Asie centrale, le 7 novembre 2013 au Collège de France.
La DAFA, délégation archéologique française en Afghanistan, fut créée en 1922 par l'indianiste Alfred Fouché et conserva longtemps le monopole des fouilles dans ce pays. Elle s'assignait pour but, d'une part, l'étude des très nombreux monuments bouddhiques, d'autre part, la redécouverte des traces archéologiques laissées par les royaumes grecs successeurs d'Alexandre, qu'on ne connaissait encore que par leurs monnaies, dont certaines comptent parmi les plus beaux spécimens des monnayages hellénistiques. Si le premier objectif fut dès le départ largement rempli et donna lieu à une série de publications remarquables, le second fut jalonné par des échecs, avant qu'en 1964, cette longue quête des héritiers d'Alexandre ne se voit récompensée, ô combien, par la découverte de la ville d'Aïranoum. Entre-temps, la DAFA avait su saisir l'occasion d'apporter une lumière nouvelle sur l'Empire couchant, contemporain de l'Empire romain, qu'on connaissait jusqu'alors surtout comme protecteur d'établissements bouddhiques, mais dont des aspects beaucoup plus divers surgirent à deux reprises. En 1937, ce fut la découverte par Joseph Aquin du trésor de Bégram, que l'on prit longtemps pour une cage de marchands, mais où l'on reconnaît maintenant une trésorerie royale murée. C'était en tout cas un dépôt très éclectique, où voisinaient des verreries d'Alexandrie, des ivoires sculptés de l'Inde et des laques chinoises, toutes ces catégories du trésor étant représentées ici au musée Guimet. Puis vint, dans les années 50, la fouille du temple de Surcotal par Daniel Schlumberger, fouille éclairée par la première grande inscription connue en bactrien, la langue iranienne de la Bactriane, écrite en caractère grec, révélant une expression religieuse officielle qui n'était pas bouddhique. On crut d'abord à un feu dynastique, unique en son genre. On sait maintenant que ce temple était le premier connu d'une série de temples à images attestés aussi en Sogdiane, et relevant de ce qu'on peut appeler la variante centra-asiatique du zoroastrisme, qui se différenciait de la variante ouest-iranienne par une forte composante iconique, empruntant ses modèles à la Grèce et à l'Inde. À vrai dire, la Dafa n'avait pas attendu Surcotal pour rencontrer ce zoroastrisme particulier. Le relevé scrupuleux qui fut alors réalisé de la peinture surmontant l'un des grands Bouddhas de Bamiyan et qui a elle aussi péri par la fureur imbécile des talibans allait plus tard permettre de reconnaître Mitra, le dieu solaire iranien, franchissant à l'aube sur son char la crête de l'Hindoukouche. Les archéologues de la Dafa étaient une poignée d'enthousiastes, travaillant avec très peu de ressources et parfois sans grand soutien des autorités françaises. L'archéologie soviétique de l'Asie centrale, plus encore qu'ailleurs en URSS, fut une entreprise étatique, impliquant de très grosses équipes, certes hétérogènes dans leurs méthodes comme dans les moyens dont elles disposaient. Ceux-ci pouvaient être considérables. Ainsi, au Khorezm, la Khorasmie des auteurs antiques, le pays au sud de la mer d'Aral, dont le fouilleur Sergueï Tolstov disposa d'avions de l'armée rouge pour effectuer les photos aériennes. Elles lui permirent de dresser la première carte diachronique des anciens réseaux d'irrigation jamais réalisés à l'échelle d'un pays tout entier. Le fait qu'il ait été le précepteur de la fille de Staline a pu l'aider. Cet effort, jusqu'alors sans précédent dans l'histoire mondiale de l'archéologie, avait diverses motivations. L'esprit encyclopédiste qui animait la jeune science soviétique et qui faisait que les expéditions archéologiques étaient presque toutes interdisciplinaires, ce qu'indique par exemple le nom même de l'expédition archéologique et ethnographique du Khorezm. Entrait en compte aussi un sentiment d'urgence avec la conscience de ce que les paysages fossiles, jonchés de châteaux antiques toujours debout, bien que construits en terre, allaient disparaître sous les effets de la remise en irrigation. Très présent aussi, bien que rarement exprimé ouvertement, fut le souci de rendre à ces peuples une mémoire historique qui ne devrait rien à l'islam. Toutes les régions d'Asie centrale, des oasis au désert et aux vallées les plus reculées du Pamir et de l'Altaï, bénéficièrent de cet effort, poursuivi sans relâche jusqu'aux années 1970 où il commença à s'essouffler. Encore aujourd'hui, aucun étudiant ne peut prétendre se spécialiser sur l'archéologie de la région sans s'immerger au préalable dans ses publications, déjà anciennes, mais dont on continue d'extraire des données essentielles. Certes, à côté de succès éclatants, cette épopée scientifique eut aussi ses zones d'ombre. Des publications presque uniquement en russe. Une tendance à la surinterprétation des vestiges religieux, ou supposés tels. Un accès limité aux publications étrangères. Des catastrophes individuelles aussi, entraînant des carrières brisées et la non-publication de nombreuses fouilles. Longtemps, les archéologues occidentaux, dont moi-même, ont pensé qu'en URSS, la profession d'archéologue avait été bien protégée, offrant un exutoire à nombre d'intellectuels non conformistes, ou juifs, assez souvent les deux à la fois. Cette illusion n'est plus de mise depuis la parution à Saint-Pétersbourg du livre « Hommes et destins, dictionnaire des orientalistes victimes de la terreur politique dans la période soviétique ». Je viens de mentionner l'isolement qui avait longtemps pesé sur cette archéologie. Il n'était partiellement rompu que par quelques passeurs. Ainsi, Roman Girschmann, archéologue français d'origine russe, un moment directeur de la Dafa, qui publia des résumés substantiels des livres de Tolstov sur le Khorezm et intégra largement l'apport des fouilles urbaines soviétiques dans son grand livre « Partes et Sassanides », destiné à la fois aux spécialistes et au grand public. En 1965, la banquise commença à craquer. Cette année-là, pour la première fois, archéologues français et soviétiques travaillèrent côte à côte sur la fouille d'Ayr Hanoum, à la suite d'une exigence politique des autorités afghanes, plutôt bien inspirée en la circonstance. Paul Bernard, qui dirigeait la fouille, exigea dès lors de tous ces jeunes collaborateurs qui souhaitaient poursuivre dans cette voie qu'ils apprennent le russe, et les encouragea à entreprendre des thèses fondées en grande partie sur les matériaux des missions soviétiques. J'eus la chance d'être de ceux-là. Commençant peu après mes tournées sur les chantiers en URSS, qui n'ont jamais cessé depuis, je puis témoigner de l'intérêt que suscitaient partout les découvertes d'Ayr Hanoum, cette cité dont aucun équivalent ne s'est conservé nulle part ailleurs en Asie centrale. Cité si grecque par ses hautes expressions culturelles, le théâtre, le gymnase, la sculpture sur pierre, mais si bactriède par ses modes de production et de vie quotidienne, peut-être aussi par sa place dans la géographie religieuse, puisqu'elle était établie sur un affluent de l'Oxus, l'Ocus, que la tradition zoroastrienne identifiait à la bonne rivière au bord de laquelle Zoroastre avait reçu sa révélation. Passé le premier moment d'enthousiasme, Ayr Hanoum n'avait plus guère intéressé les hellénistes, quelque peu déçus d'y trouver une Grèce au rabais et un quasi-désert épigraphique. La découverte, dans la fouille du palais, d'inscriptions économiques et d'un papyrus conservant les fragments d'un dialogue philosophique, peut-être un traité perdu d'Aristote, mit fin à ces années de regrettable incuriosité. Pierre Hadot consacra au déchiffrement du papyrus philosophique une année entière de son séminaire au collège. Mais ces découvertes intervinrent trop tard, à la veille des événements d'Afghanistan qui contraignirent à abandonner le site avant qu'il ne soit finalement anéanti par les pillages. Le terrain perdu ne tarda pas à s'offrir de nouveau, mais ailleurs. À la faveur de la perestroïka, les collègues soviétiques pouvaient enfin proposer à des archéologues étrangers ce qui avait toujours paru impensable, même à l'époque tsariste, ouvrir chez eux des chantiers de fouilles en collaboration. En 1989, avec l'appui du CNRS et du ministère des Affaires étrangères, j'établis à Samarcande la mission archéologique franco-soviétique de Sogdiane. 2 ans plus tard, l'Ouzbékistan, devenu indépendant, eut à cœur de maintenir cette ouverture, la mission étant rebaptisée franco-ouzbek. Après les qualités fraternelles du peuple afghan, nous apprîmes à aimer celles du peuple ouzbek. Là, continuent de travailler ensemble, désormais avec des méthodes communes et publiant de concert, des camarades d'Ayr Hanoum, d'anciens fouilleurs de l'époque soviétique, de jeunes archéologues ouzbeks et de plus en plus des étudiants de divers pays qui viennent se former. Une autre mission issue de la DAFA nous avait précédé au Tadjikistan, où elle fouille encore sur le site clé de Sarasme remontant à la période chalcolithique. D'autres missions françaises, européennes, australiennes, japonaises et maintenant russes de nouveau travaillent sur d'autres sites et selon les mêmes principes de coopération transnationale. Le choix de Samarcande comme terrain de notre seconde chance s'était produit sur le fond d'un renouvellement des connaissances, déjà ancien, mais qui ne donna pleinement ses fruits qu'à cette époque. Ce renouvellement, ce fut la redécouverte de la civilisation sogdienne de l'Antiquité et du Haut Moyen-Âge. Redécouverte liée principalement à la fouille de la ville de Penjikent, entamée dans l'immédiate après-guerre par le musée de l'Ermitage et qui se poursuit encore aujourd'hui. La Sogdiane est le nom que portait depuis l'Antiquité le pays de Samarcande et de Boukhara, s'étendant au sud jusqu'à l'Amoudaria, l'Oxus des Anciens. Penjikent, fondé au 5e siècle de notre ère, à 60 km à l'est de Samarcande et maintenant situé en territoire tadjik, a pu être comparé à Pompéi. Comparaison banale en archéologie, mais qui, dans le cas présent, s'appuie sur quelques analogies pertinentes. Là aussi, il s'agit d'une ville moyenne qui a pu abriter au maximum 5 à 6 000 personnes, faubourg compris. Là aussi, la proportion de population aristocratique ou même simplement aisée était exceptionnelle, en partie parce que Penjikent échappa 10 ans de plus que Samarcande à la conquête arabe et que pendant ces années, elle accueillit un nombre important de grandes familles de la capitale animées d'un fort esprit de compétition sociale et qui eurent à cœur de se faire bâtir autant de petits palais décorés de peintures. Comme Pompéi, Penjiken s'était trouvé en quelque sorte scellé, non pas sous des cendres volcaniques, mais sous l'écroulement de ses murs de terre, par suite de son abandon rapide 30 ans après la conquête arabe. Comme Pompéi, enfin, elle est maintenant fouillée sur 50% de sa surface, ce qui entraîne un effet de seuil dans les possibilités d'interprétation des vestiges. J'ajouterai que cette fouille fut successivement dirigée par deux des plus grands esprits de l'orientalisme russe moderne. D'abord, Alexandre Belenitsky, au départ éminent spécialiste de l'arabe et du persan, qui avait dû se reconvertir en catastrophe dans l'archéologie pour échapper à l'épuration qui menaça l'école orientaliste pétersbourgeoise lors des derniers soubresauts du stalinisme. De sa première formation, il garda une aptitude inégalée à mettre en résonance les documents iconographiques et les œuvres littéraires. Lui succéda mon ami Boris Marchak, mort sur la fouille en 2006, qui sut maintenir cet héritage intellectuel en l'adossant aux méthodes les plus exigeantes de l'archéologie de terrain et de l'analyse formelle. Tous les archéologues de l'Asie centrale savaient que Penjikent était la référence. Il est juste, toutefois, de rappeler que la contribution majeure de la Sogdiane à l'histoire des 5e au 8e siècle, à savoir son rôle organisateur sur toutes les étapes du commerce transasiatique, de la Chine à Byzance, de la steppe mongole au col de l'Himalaya, ce rôle n'est guère saisissable à Penjikent, où les valeurs qui s'affichent sont surtout celles de la sociabilité aristocratique et de la prouesse guerrière. Si cette histoire du grand commerce a pu récemment recevoir un éclairage décisif dans le livre d'Étienne de la Vessière publié au Collège de France, c'est en grande partie grâce à des documents écrits. Lettres de marchands, documents douaniers chinois, graffitis de caravaniers en route vers l'Inde découverts dans les passes du Haut-Indus. Paradoxalement, les découvertes sur la civilisation sogdienne ouvrirent aux études centra-asiatiques des occasions nouvelles de revenir à l'Inde et à la Chine, qui avaient été leur point de départ au début du siècle dernier. En ce qui concerne l'Inde du Nord, c'est l'archéologie de la Sogdiane et de la Bactriane qui a conduit à réévaluer le bilan de la période des Huns et des Eftalites, aussi sombre dans les descriptions transmises par les bouddhistes contemporains que dans celles du chroniqueur arménien que j'ai tout à l'heure cité. Sur le long terme, ce fut en réalité une période d'interaction particulièrement féconde dans le nouvel espace politique commun qui s'était formé à cheval sur l'Inde et l'Asie centrale. C'est alors que l'Asie centrale connut une nouvelle vague d'urbanisation en villes moyennes fortifiées. C'est alors aussi que les écoles de peinture murale, nées dans l'Empire Kushan, migrèrent en Sogdiane, y donnant naissance à un art capable d'illustrer tant le panthéon zoroastrien que l'épopée iranienne ou les fables issues de multiples traditions. En Chine du Nord, à partir des années 1990, les découvertes répétées de tombeaux sculptés à la fin du VIe siècle pour des marchands sogdiens établis à demeure ont révolutionné ce qu'on savait du statut des élites centra-asiatiques dans l'empire des Chou du Nord et des Sui, et ont fourni les images les plus détaillées qu'on connaisse des mythes zoroastriens sur l'au-delà. Après avoir été longtemps réticents à admettre ces composantes étrangères, nos collègues chinois les assument pleinement et font appel à l'expertise des spécialistes de la Sogdiane. On sait maintenant beaucoup de choses sur les Sogdiens, et aussi sur leurs voisins de Bactriane et du Khorezm. Il est vrai qu'on en ignore aussi beaucoup, et que parmi les nouveaux éléments d'information dont nous disposons, certains entrent en contradiction aussi bien entre eux qu'avec certaines notions qu'on croyait acquises. Je me bornerai à passer en revue quelques-uns de ces paradoxes qui sont autant de défis qui nous sont lancés. Un premier paradoxe tient aux structures du pouvoir et à la place de la royauté. L'Asie centrale, contemporaine de l'Iran sassanide, a longtemps été considérée comme une sorte d'extension culturelle de celui-ci. Nous savons aujourd'hui qu'il y a là-dedans un élément de vérité, mais qu'il touche surtout à la symbolique du pouvoir. Les souverains des diverses principautés d'Asie centrale se mettent en scène et vraisemblablement se perçoivent comme les équivalents des rois sassanides, plus encore à partir du moment où la royauté iranienne a vécu. En 660, 9 ans après l'assassinat à Merv du dernier roi des rois en fuite, le roi de Samarcande, allié de la Chine des Tang, commande ou inspire dans une riche demeure de sa capitale un cycle de peinture qui le pose en roi de la paix universelle, présidente aux festivités du Nouvel An en recevant les ambassades, donc dans la fonction politique publique qui était par excellence celle des rois sassanides. Sur le mur sud de la salle, précisément la direction attribuée au roi des rois dans la symbolique cosmique, il conduit la procession au mausolée de ses ancêtres. Malgré cela, on sait que sa dynastie dura ce que duraient en général les dynasties sogdiennes, pas plus de 2 ou 3 générations. Sur la peinture, les visages furent biffés lors d'un épisode violent lié à un changement politique. La conquête oumayade, 50 ans plus tard, trouva toute la zone partagée entre des principautés rivales, où le vrai pouvoir était aux mains de groupes tribaux turcs et d'une oligarchie foncière ou marchande, elle-même divisée entre ce que Marchak comparait aux Guelfes et aux Gibelins, en l'espèce le parti des Arabes et le parti de la Chine. Dans le domaine religieux aussi, les paradoxes sont nombreux. On a coutume de dire que le bouddhisme avait pour appui principal la classe marchande urbaine. On peut éventuellement faire ce raisonnement pour la Bactriane, où il occupait une position dominante, encore que non hégémonique. Mais en Sogdiane, la plus marchande de ces sociétés, c'est exactement l'inverse. Les traces archéologiques du bouddhisme y sont très rares. Passant en 630 à Samarcande, le pèlerin chinois Xuan Zang signale qu'il ne reste presque plus de moines et que les derniers sont pourchassés dans leur monastère par des zélotes zoroastriens brandissant des feux de purification. Les bouddhistes sogdiens ont certes laissé d'abondants écrits, mais ces bouddhistes n'existaient pratiquement qu'en Chine. Le zoroastrisme serait en principe un élément de continuité avec l'Iran sassanide où cette religion était celle du roi et de l'État. Mais ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de le signaler, il se présente en Asie centrale sous un aspect très différent. Son originalité la plus spectaculaire est la large place faite aux images de culte. L'Iran n'avait su créer qu'un art religieux d'une désolante pauvreté, toute l'inventivité allant à l'art monarchique. Au contraire, le zoroastrisme d'Asie centrale, non moins authentique, si ce terme peut avoir un sens en histoire des religions, en tout cas originaire de la région, abreuvé au même texte qu'en Iran et partageant avec lui certains rituels, ce zoroastrisme-là n'a jamais manifesté de réticence à accueillir les modèles iconographiques fournis par les colons grecs, puis par les contacts avec l'Empire romain et plus tard par l'hindouisme. Loin d'avoir été transposés de manière servile, ces modèles furent retravaillés pour être adaptés aux personnalités du panthéon iranien auquel on les affectait, avec un évident souci d'exhaustivité. Il est possible qu'on puisse confirmer un jour que chacun des 27 dieux du calendrier avait sa propre image. Il y eut aussi des créations originales, étroitement inspirées par les textes. Il y avait enfin des éléments étrangers à la religion iranienne et pourtant intégrés au calendrier festif. Le culte mésopotamien d'Ishtar, appelé Nana en Asie centrale. Et, découverte surprenante de ces dernières années, un culte à Déméter, associé au précédent dans des célébrations saisonnières. Et cela jusqu'au 7e siècle. On est forcé de reconnaître dans cette transplantation des mystères d'Éleusis un héritage de la période grecque. Et ceci, bien que pas une seule monnaie grecque de Bactriane ne comporte l'image des divinités qui leur sont associées. Une autre différence importante, à vrai dire plutôt sympathique, avec le zoroastrisme sassanide, souvent sinistre dans ses manifestations d'intolérance, est que la religion sogdienne ne fut pas persécutrice. Sauf du bouddhisme, sans doute parce qu'elle n'avait jamais reçu l'appui complet des appareils d'État. Elle dut toujours s'accommoder de la présence d'autres croyances. En Bactriane, certaines, comme le bouddhisme et l'hindouisme, avaient auparavant bénéficié des faveurs du pouvoir couchant, qui pourtant n'affichait sur son monnayage presque que des divinités zoroastriennes. Contrairement à ce qui est le cas en Iran, aucun nom de martyr juif, chrétien ou manichéen ne nous a été transmis pour l'Asie centrale préislamique. Ceci ne prouve évidemment pas qu'il n'y en ait jamais eu, mais il est clair que de telles persécutions n'eurent pas un caractère massif qui leur aurait permis d'alimenter les martyrologues. Un autre paradoxe qui mérite qu'on s'y arrête un peu a trait aux usages de l'écrit. À coup de découvertes successives, les peuples anciens de l'Asie centrale se sont remis à nous parler par leurs propres mots et non plus seulement par ceux des autres. La langue sogdienne, presque éteinte à partir du XIe siècle, est maintenant bien connue, et j'ai même 3 collègues qui la parlent. Il est vrai en la prononçant de manière assez différente, l'un plutôt à l'anglaise, l'un plutôt à la japonaise, l'un plutôt à la russe. Quant aux Bactriens, auparavant attesté seulement par quelques inscriptions monumentales, il a ressuscité à partir de 1991, lorsqu'une masse d'archives sur parchemin, émise par un petit royaume montagneux d'Afghanistan entre le IVe et le VIIIe siècle, eut surgi d'une grotte rouverte pour être aménagée en cache d'armes. Il faut bien admettre cependant que ces documents écrits ne nous ont pas livré tout ce qu'on aurait été en droit d'espérer. Les textes sogdiens comportent certes une proportion importante de textes littéraires, mais dans leur grande majorité, ces textes sont des traductions d'écrits des grandes religions missionnaires alors à l'œuvre sur les routes de la Chine. Bouddhisme, christianisme nestorien, manichéisme. Et pourtant, les Chinois nous apprennent que les sogdiens chantaient sur les routes en s'accompagnant d'instruments de musique. S'ils chantaient, c'est qu'ils avaient des poèmes. On les cherche encore. Les murs des riches maisons de Penjikent sont couvertes de bandes dessinées peintes figurant des scènes épiques, avec aussi des tableaux teints représentant de manière ramassée toutes sortes d'apologues et de fabliaux. Un seul des nombreux sujets identifiables, un épisode des exploits du héros Rostam, s'est retrouvé dans un morceau conservé de la littérature sogdienne. Celle-ci comporte aussi divers contes transcrits par les manichéens et inspirés tantôt d'Ésope, tantôt de la Bible, tantôt du Panchatantra indien, qui est à la source aussi d'une partie des fables de La Fontaine. Toutes ces composantes se reconnaissent ou se devinent dans le répertoire des contes illustrés par les peintures. Et pourtant, on n'a encore pu déceler aucun cas de correspondance directe. Quant aux écrits bactriens, la situation est encore plus frustrante. Un collègue médiéviste à qui je montrais des photographies des parchemins récemment retrouvés s'exclama « On dirait des chartes médiévales ». À quoi je répondis « Ce sont des chartes médiévales ». Nos médiévistes sont heureux d'avoir des chartes. Ils le seraient moins si la littérature du Moyen-Âge se réduisait à elles. Et pourtant, c'est pratiquement le cas en bactriane, à l'exception de quelques textes de correspondance personnelle. Par éclair, les noms de personnes laissent parfois entrevoir une culture littéraire sous-jacente. Un sceau du Ve siècle a transmis les traits d'une jeune princesse, et son nom, Scheherazade. C'est la seule Scheherazade connue avant les mille et une nuits. Avait-elle quelque chose d'intéressant à raconter? On se plaît à l'imaginer. Plus sérieusement, un autre protagoniste des documents bactriens s'appelait Purlangzin, c'est-à-dire l'homme à la peau de panthère. C'est le surnom du héros Rostam que nous venons de rencontrer à Penjikent et qu'on retrouve dans le chevalier à la peau de tigre de l'épopée georgienne. Ayons confiance dans les découvertes futures. Même si ces littératures étaient pour l'essentiel réservées à l'oralité, il existe une probabilité non négligeable pour qu'en réapparaissent des morceaux, peut-être sous la forme des rouleaux historiés qu'on devine avoir servi de modèle aux peintres sogdiens. On ose espérer qu'il en ira de même pour la musique, même si les instruments anciens sont de mieux en mieux connus.
Le Collège de France et France Culture vous présentent l'archéologue Franz Grenet pour sa leçon inaugurale « Recentrer l'Asie centrale » le 7 novembre 2013.
Il ne faut pas se voiler la face. Ces découvertes, notamment celles de textes et de peintures sur support périssable, passeront moins par les fouilles régulières que par le marché des antiquités, comme cela fut déjà le cas pour les archives bactriennes. En Afghanistan, malgré la reprise de l'activité archéologique et la réouverture de la DAFA en 2002, le métier d'archéologue nourrit moins son homme que celui d'organisateur de fouilles clandestines. Cette profession n'est pas apparue dans les républiques ex-soviétiques, du moins à ma connaissance. Mais celle d'archéologue y est devenue financièrement peu attractive Et l'on peut concevoir des inquiétudes quant à la relève de l'actuelle génération, très bien formée à la période précédente. Le durcissement des barrières frontalières entre les nouvelles républiques gêne les contacts personnels entre les chercheurs. La perte d'expertise se fait déjà sentir de manière préoccupante dans la restauration des monuments. Tandis que le musée d'histoire de Samarcande, l'un des plus riches par son contenu, tant archéologique qu'ethnographique, a fermé sans perspective claire de réouverture. Mais nous-mêmes, sommes-nous toujours bien placés pour donner des leçons ? Le cabinet des médailles de notre Bibliothèque nationale, qui abrite tant de trésors numismatiques et artistiques d'Iran et d'Asie centrale, et où, comme je viens d'en faire l'expérience, l'on peut encore faire des découvertes importantes. Ce cabinet est maintenant inaccessible pour 4 ans, faute de moyens, faute aussi, semble-t-il, d'interlocuteurs administratifs suffisamment éclairés quant à ses richesses scientifiques. Tournons-nous plutôt vers les signaux plus positifs qui compensent largement les autres. À l'heure où je parle, les fouilles sont de nouveau très actives dans la totalité des États concernés. Au Xinjiang, où les autorités furent longtemps réticentes à admettre des archéologues étrangers, ceux-ci sont maintenant présents sur le terrain, notamment une équipe française qui obtient des résultats remarquables dans les anciennes oasis ensablées au sud du Taklamakan. Autre facteur encourageant, la chronologie, auparavant très incertaine des premiers cycles de notre ère, est maintenant bien arrimée, mettant pratiquement fin à des débats qui avaient accaparé trop d'énergie au siècle dernier. L'entreprise internationale de la Syllogée, lancée par nos collègues de Vienne, est en train de doter la numismatique de l'Iran et de l'Asie centrale des meilleurs outils possibles. La céramique de toutes les périodes a, elle aussi, reçu les siens, ou est en passe de les recevoir, sous forme d'ouvrages et de tessonniers de référence, notamment grâce aux efforts successifs de Boris Marchak, Jean-Claude Gardin et Bertil Lyonnais. Enfin, le retard qu'avait l'archéologie centra-asiatique dans l'utilisation des sciences physiques est en train de se résorber. Récemment, a été proposé un modèle climatologique convaincant, reliant l'écroulement du premier empire turc de Mongolie à un épisode volcanique survenu en 626. On va bientôt nous en proposer un autre, susceptible d'apporter un nouvel éclairage sur l'expansion foudroyante de l'empire de Gengis Khan et sa fragmentation ultérieure. Les recherches sur l'ADN s'invitent aussi, peut-être un peu bruyamment en ce qui concerne le Xinjiang, où s'est manifestée chez certains chercheurs occidentaux une lourde tendance à vouloir dessiniser à toute force le passé de la région en exhibant des momies aux cheveux roux, en réalité d'époques très diverses, en même temps que l'on faisait des anciens poètes kutchéens quasiment des bardes celtiques sur la foi de rapprochements linguistiques superficiels. Ce n'est sans doute pas par hasard si plusieurs projets d'ouvrages cumulatifs visant à afficher la notion d'Asie centrale s'engagent à peu près en même temps. J'y participe et je prévois que mes premières années d'enseignement au collège accompagneront ces efforts de synthèse. Je proposerai notamment de dresser un état des lieux des fouilles d'archéologie urbaine entre l'âge du fer, époque où émergent les grands pôles d'oasis qui ont perduré jusqu'à nos jours, et les débuts de la période islamique. Pour l'âge du bronze, qui connut une première urbanisation suivie d'un effondrement à peu près général, j'inviterai à mon séminaire des collègues directement compétents. Nous n'en manquons certes pas. Plusieurs grandes fouilles sont maintenant publiées. D'autres le sont en partie, et vraisemblablement ne le seront plus guère davantage. D'autres, enfin, s'engagent dans ce processus. Chaque site a sa personnalité propre, lié à son histoire, à l'histoire de son étude, à l'état inégal de la documentation, aux méthodes et aux présupposés des diverses équipes d'archéologues. Le moment semble venu de mettre en série ces histoires urbaines distinctes et de les soumettre à un questionnaire commun. Quand et pourquoi ces villes ont-elles pris naissance ? Quand et pourquoi sont-elles mortes ou se sont-elles déplacées ? Y a-t-il eu des passages de relais d'une ville à l'autre ? Les programmes monumentaux qui se révèlent à l'archéologue ont-ils toujours abrité des fonctions majeures de la vie urbaine ? Si l'on prend le cas de Samarcande, la réponse est loin d'être évidente. À l'instar de la Samarcande de l'album d'Hugo Pratt, évoqué mais jamais dessiné, le centre urbain pré-mongol dont nous mettons au jour les vestiges donne un peu l'impression d'une ville virtuelle où l'on a sans cesse entrepris et rarement achevé quoi que ce soit, sinon les remparts, parce que chaque pouvoir successif voulait apposer sa marque et négligeait celle de son prédécesseur. Une fonction de mon séminaire devrait être de contribuer à ce que j'appellerais la veille documentaire. En Asie centrale, davantage sans doute que dans bien d'autres domaines géographiques, il importe de savoir accueillir et gérer l'inattendu. Quand je considère ma production scientifique de ces 15 dernières années, je m'aperçois qu'un quart au bas mot de mes articles échappait à toute planification. Qui aurait pu prévoir, ne serait-ce que quelques mois à l'avance, la réouverture de l'Afghanistan à la recherche archéologique en 2002, après 20 ans de fermeture? Peu après, me parvinrent des photographies du seul relief sassanide jamais découvert à l'est de l'Iran, sculpté sur une falaise au nord de Kaboul, ce qui m'amena, toutes affaires cessantes, à monter une mission de crainte qu'il ne soit détruit. On ne s'attendait pas à un relief sassanide. On s'attendait encore moins à ce que révéla son étude, c'est-à-dire un relief montrant Shapur Ier, le vainqueur des Romains, chassant le rhinocéros sous un manguier dans une région où il n'y avait ni rhinocéros ni manguier. Par le choix de ces motifs, Shapur nous invitait à regarder en direction de l'Inde dont il avait entamé la conquête. Une expérience analogue survint en 2006, quand je reçus des photographies d'inscriptions trouvées au Kazakhstan, qui depuis quelque temps circulaient sous le manteau et étaient supposées hébraïques. Soupçonnant qu'elles étaient sogdiennes, je les envoyais à Nicolas Sims-Williams, qui sur l'heure produisit un déchiffrement complet confirmant mon idée. C'étaient les plus anciens documents connus en cette langue, des proclamations de colonisation militaire et agricole sur le front de la steppe, datables du IIe ou du début du IIIe siècle, une époque où nous ne connaissions les Sogdiens que comme caravaniers sur la route de Chine. Ceci m'amena à prendre contact avec le fouilleur du site d'où provenaient ces inscriptions et à étendre au Kazakhstan la zone d'intérêt de ma mission. Dernier exemple, en cette même année 2006, nos collègues australiens qui travaillent au Khwarezm eurent la confirmation de ce que le site de Kazakliatkan où ils fouillaient et qui avait échappé à l'ancienne mission soviétique avait été la première capitale de ces royaumes dans les deux ou trois siècles au tournant de notre ère, et cela notamment grâce à la découverte de peintures murales à l'étude desquelles ils m'ont associé. Dans un contexte qui est probablement celui de la fête du Nouvel An, elles figurent des processions de chevaux comparables à celles de Persépolis et une galerie de portraits royaux qui pourraient être des ancêtres. Ce pourquoi nous n'avons dans l'ère iranienne qu'un seul point de comparaison, strictement contemporain, mais géographiquement strictement opposé, la double galerie d'ancêtres iraniens et grecs au tombeau royal du Nimrud Dag en Turquie orientale. Certes, en même temps que des terrains s'ouvrent, d'autres risquent de se refermer, sans plus de préavis. Mais les interactions historiques entre tous les pays de l'Asie centrale, ainsi que le nécessaire va-et-vient méthodologique entre le terrain, les textes et les images, offrent maintes possibilités de repli et de réorientation. Tous les chercheurs travaillant sur la zone ont, à un moment de leur carrière, connu ces contraintes, qui, à l'expérience, peuvent s'avérer plus stimulantes que des enracinements trop confortables. J'ai, dans cette présentation, tenté de montrer qu'on pouvait tenir un discours sur l'Asie centrale en s'autorisant une disparition majeure dans le vocabulaire. Ce nom que sans doute vous attendiez, mais que vous n'avez pas entendu, c'est la route de la soie. Loin de moi l'idée que ce produit n'ait joué aucun rôle historique, ni que la notion de route de la soie, forgée en 1877 par le géographe Ferdinand von Richthofen, n'ait eu un rôle heuristique majeur dans le développement de nos études. Mais le terme apparaît aujourd'hui un peu fatigué, à force d'avoir été mis à toutes les sauces. Il masque le fait, maintenant bien reconnu, que la soie n'était pas pour ces producteurs chinois un objet de profit, mais tout simplement une monnaie, servant à payer les fonctionnaires et à gratifier les souverains étrangers, notamment les menaçants nomades. Ce furent les marchands sogdiens qui la captèrent en route et en firent un objet économique. Même de leur point de vue, il ne semble pas qu'elle était toujours perçue comme formant l'essentiel de leur activité. À lire les lettres qu'ils échangeaient et les registres des douanes qu'ils franchissaient, ils auraient pu tout aussi bien se dire les maîtres de la route du musc ou de la route du santal. Dans tous les cas, il s'agissait de quantités infimes à l'aune du commerce moderne et de produits peu pondéreux, dont le prix relevait presque uniquement de la valorisation symbolique. Même si le commerce lointain, par les contacts qu'il a permis, a énormément apporté à la culture religieuse, littéraire et artistique de l'Asie centrale, il faut se défaire de l'idée qu'il en ait jamais constitué la principale assise économique. Cette assise, qui par endroits remonte à l'âge du cuivre ou à l'âge du bronze, c'est le labeur toujours recommencé des creuseurs de canaux. On a envie de dire des ingénieurs de l'hydraulique, tant leur expertise se compare favorablement à celle de la technologie moderne. C'est corrélativement un génie tout particulier dans la sélection et l'acclimatation des plantes, notamment des fruits. À l'époque du commerce sogdien, les pêches d'or de Samarcande avaient acquis une renommée légendaire en Chine. Et bien plus tard, le grand moghol Babur, conquérant de l'Inde, confia dans ses mémoires avoir pleuré le jour où il put de nouveau savourer un melon de Kaboul qu'on lui avait apporté dans la glace. L'archéobotanique vient maintenant confirmer ces données, longtemps fournies seulement par la littérature et par les images. L'identité de l'Asie centrale, c'est aussi la terre crue, sous toutes les formes où elle peut être utilisée. Ce sont les arts de la céramique, des métaux nobles, des pierres semi-précieuses, mais fort peu de la pierre à bâtir. Ce sont les arts du bois, aujourd'hui bien raréfiés, du tapis, de la tenture, du confort urbain en général, à l'exception notable des installations balnéaires qui disparurent entre les Grecs et l'arrivée de l'islam. C'est aussi, et on saisit là un caractère plus spécifique à la zone, les relations d'échange et de complémentarité entre le monde sédentaire et le monde nomade. Relations nouées en lisière de chaque oasis et parfois à l'intérieur même de celle-ci, et qui, sur la longue durée, ont beaucoup plus compté que les épisodes hostiles. Avant la rupture majeure qu'a constituée l'invasion mongole de 1220, terrible saignée du peuplement qu'on lit partout sur le terrain, comparable par ses effets à la grande peste d'Occident qui en fut sans doute la conséquence lointaine. Ces recherches sont maintenant reprises par des équipes jeunes et nombreuses qui chaque année produisent des matériaux nouveaux et expérimentent de nouvelles approches. Bien au-delà des travaux que je conduis et continuerai à conduire avec mes collaborateurs à Samarcande et ailleurs, la chaire à laquelle le Collège de France m'a fait l'honneur de m'élire aura vocation à accueillir ces recherches, à les faire dialoguer et à les soutenir. Je vous remercie.
La leçon inaugurale de Franz Grenet, recentrée l'Asie centrale le 7 novembre 2013 au Collège de France. Le texte de cette leçon a paru chez Fayard en 2014. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo, l'édition électronique et les informations liées à cette diffusion et le lien vers l'éloge du savoir avec Franz Grenet. Cette émission sera rediffusée dans le cadre des Nuits de France Culture. Un grand merci à notre équipe de réalisation avec Olivier Guérin et Pierrick Mancini et aux équipes de la documentation de Radio France. Demain, Dominique Charpin, comment peut-on être assyriologue ? Bonne fin de journée à l'écoute de France Culture.